Enfin, en tout cas, une chose est sûre. Voilà, nous fêtons le pape. Voilà. Nous fêtons le pape Paul VI. Saint Paul VI. C'est beau l'évangile d'ailleurs. À chaque canonisation, à chaque fête d'un pape canonisé, on a cet évangile-là. Ou le nom de Pierre, Simon Pierre et Simon. Dans la bouche de Jésus, en plus, proclamé comme ça, cette fois. Et le nom de Jésus dans le même évangile, il a aussi proclamé cette fois. Cet évangile qui est très beau. Très très beau. D'abord c'est Simon Pierre, puis après c'est Simon, fils de Jean, trois fois dans la bouche de Jésus. Et puis après la cinquième fois c'est Pierre. C'est un évangile où Jésus dit soit le pasteur de mes brebis, soit le berger de mes agneaux d'abord, soit le berger de mes brebis. Sois le pasteur de mes brebis. Quand quelqu'un a été créé par Dieu, qu'il a dit oui avant de naître, et puis qu'il est né, pour être le pasteur sur la terre. Les brebis de Jésus, du Seigneur, de Dieu. C'est une destinée véritablement unique. Saint Paul VI, lui, est-ce que vous le savez, il est né et en 1897. Ça, oui, ça, tout le monde s'en rappelle parce que c'est quand même extraordinaire. De voir qu'il est né et dans la même semaine que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'est endormi. 3 jours et demi après sa naissance de Paul VI, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'est endormi. Il y a une espèce de lien extraordinaire. Ces deux là, ces deux saints, ils vont avoir sur le XXe siècle, les témoins du XXe siècle. Je sais que le XXe siècle a été quand même quelque chose, a été un siècle. C'est une tragédie, quoi. Véritablement. Le XXe siècle. Et pour être un saint et traverser victorieusement ce siècle, il fallait être un enfant. Hein. Il fallait être comme un enfant. Hein. Il fallait avoir une confiance. Voilà, c'est vrai. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, la guerre contre l'Église qui était totale, hein, c'était une guerre contre les chrétiens, il y a eu un acharnement contre les chrétiens, les Arméniens, 11 millions, 12 millions, et toutes les d'Arméniens qui ont été... martyrisé, ça a commencé comme ça. Toute la chrétienté française décapitée de tout son monde religieux pendant 20 ans. Cette guerre totale contre l'Église catholique en France, dans le nouvel Israël de Dieu. Ces guerres mondiales effroyables. Bon. C'est 100 millions de morts par le matérialisme dialectique, par par là, la révolution bolchevique. Et, bref, c'était. Et au milieu de tout ça, il y avait Paul VI. Voilà. Au milieu de tout ça, il y avait ce petit garçon. Moi, j'ai toujours perçu comme un tout petit garçon, avec ses yeux comme ça. Et il y a eu le Concile Vatican II, il a proclamé Marie, mère de l'Église. Voilà, il fallait qu'il y ait quelqu'un. Au milieu de tourmente, une espèce de tourbillon effroyable, quoi. D'un déchaînement effroyable, il y a eu le pape Paul VI. Voilà, il y a eu le Concile Vatican II. Il est devenu pape en 1963. À la suite du pape Jean XXIII, Saint Jean XXIII. Et voilà, et il a proclamé Marie, mère de l'Église. Il a dit, si on ne proclame pas tous ensemble Marie, mère de l'Église, le Concile Vatican II, c'est très simple. Vous voyez, le livre est ouvert, le Vatican II, tous les décrets, très bien. On ferme le livre et on jette tout à la poubelle. Je ne signe aucun décret du Concile. Alors on dit, bon, d'accord. Alors toute la grande prostituée qui était chevauchée la bête avec toutes les coupes joyeuses de sa victoire mésomique. On dit, bon, très bien, ok. Voilà, en fait, allez, on fait la proclamation de Marie, mère de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Marie n'est pas mère de l'Église, aucun des décrets, aucune des constitutions dogmatiques depuis le début du christianisme, depuis 2000 ans, hein, il y a eu deux constitutions dogmatiques pour récapituler tous les dogmes de toute l'Église pendant 2000 ans, ne sert à rien. Si Marie n'est pas mère de l'Église, si Marie mère de l'Église, c'est ça. Ça veut dire, c'est la clé. C'est la clé. Et oui, et il faut reconnaître hein, que la guerre, on est en pleine guerre eschatologique. Le XXe siècle, c'est vraiment ça. Le pape Jean-Paul II l'a dit magnifiquement, hein, en disant, voilà, ça, c'est une guerre totale. Les gens ne se doutent pas que la guerre est absolument totale, ouverte et définitive entre l'Église catholique et toutes les puissances de ce monde. Alors lui est au milieu de tout ça. Et il a vécu hein, les dernières années de sa vie enfermé par la grande prostituée. Ils étaient d'une férocité par rapport à lui qui était ahurissante. Ahurissante. Et puis, il en est mort, bien sûr. Ah. Mais ce que j'aime chez lui, c'est ça, c'était pas du tout un pape populaire, hein. Mais il a compris que, voilà, il fallait donner la doctrine de la foi jusqu'à la fin du monde à l'état pur. Et que le pasteur des brebis, c'était à lui de donner la doctrine, d'enseigner le peuple de Dieu et la terre. C'est lui qui a été à l'ONU. En tant que pape, il a dit, le monde entier est ici. Et le pape vient. C'est lui qui a ouvert cette présence du, de Jésus, pasteur de toutes les brebis, à l'ONU. C'est lui qui a ouvert, il a ouvert toutes les portes que ses successeurs ont ouvertes ensuite pour sauver l'humanité du désastre, de l'esclavage total. C'est lui qui l'a fait gentiment, tranquillement. Il a renversé les tabous. Voilà, mais le diable s'est vengé, hein. Et c'est lui qui a essayé de qui a osé, enfin, dans le monde moderne, sauver la famille, le mariage. Mais toutes les forces de la grande prostituée chevauchant la bête avec la coupe de Sicile, cette arrogance festive parce que la victoire était acquise de l'intérieur de l'Église contre l'Église elle-même et contre le Christ. Ils sont acharnés contre lui. Voilà. Et c'est à cause de ça que la grande prostituée a décidé la communion sur la main pour montrer qu'elle se séparait du pape et qu'elle faisait de l'intérieur la guerre au pape. La première dévastation sacramentelle métaphysique a été faite sous le pape Paul VI, devant ses cieux. Il est resté quand même jusqu'au bout. Et alors il s'est dit, bon, pour sauver le monde, il faut que Marie soit mère de l'Église, premièrement. Deuxièmement, il faut que le pape donne, rappelle le credo. Je crois en Dieu. Ne retenez que ça, le credo. Et puis, troisièmement, il a sauvé la famille. C'est grâce à lui, hein, et par ses mérites, que du coup, on a eu tout l'enseignement sur la responsabilité, hein, faut pas l'oublier, ça. Alors, je vais vous lire, du coup, le credo de Paul VI. C'est ça c'est... Il faut ça va sans dire, c'est... Le credo de Saint Paul VI. Nous croyons en un seul Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur des choses visibles, comme ce monde où s'écoule notre vie passagère, et des choses invisibles, comme les purs esprits, qu'on nomme aussi les anges, et Créateur en chaque homme, de son âme spirituelle et immortelle. Nous croyons que ce Dieu unique est absolument un dans son essence infiniment sainte, comme dans toutes ses perfections, dans sa toute-puissance, dans sa science infinie, dans sa providence, dans sa volonté et dans son amour. Il est celui qui est, comme il l'a révélé lui-même à Moïse, et il est amour comme l'apôtre Jean nous l'enseigne. En sorte que ces deux noms, être et amour, expriment ineffablement la même divine réalité de celui qui a voulu se faire connaître à nous et qui, habitant une lumière inaccessible, est en lui-même au-dessus de tout nom, de toute chose et de toute intelligence créée. Dieu seul peut nous en donner la connaissance juste. Et en plénitude, en se révélant comme Père, Fils et Saint-Esprit, dont nous sommes par grâce appelés à partager ici-bas, dans l'obscurité de la foi et au-delà de la mort dans la lumière éternelle, l'éternelle vie. Les liens mutuels constituant éternellement les trois personnes, qui sont chacune le seul et même être divin, sont la bienheureuse vie intime du Dieu trois fois saint, infiniment au-delà de ce que nous pouvons concevoir à la mesure humaine. Nous rendons grâce cependant à la bonté divine du fait que de très nombreux croyants puissent attester avec nous, devant les hommes, l'unité de Dieu, bien qu'ils ne connaissent pas le mystère de la très sainte Trinité. Nous croyons donc au Père qui engendre éternellement le Fils, au Fils Verbe de Dieu qui est éternellement engendré, au Saint-Esprit, personne incréée qui procède du Père et du Fils, comme leur éternel amour. Ainsi, en les trois personnes divines, co-éternes sibi et co-équales, co-éternel en soi est parfaitement égal, surabonde et se consomme dans la surexcellence et la gloire propre à l'être incréé, la vie et la béatitude de Dieu parfaitement un, et toujours doit être vénéré l'unité dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité. Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Il est le Verbe éternel, né du Père avant tous les siècles, et consubstantiel au Père. Homo ousios to patri. Et par lui, tout a été fait. Il s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie et s'est fait homme. Égal donc au Père selon la divinité et inférieur au Père selon l'humanité et un lui-même. Non par quelque impossible confusion des natures, mais par l'unité de la personne. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il a annoncé et instauré le royaume de Dieu et nous a fait en lui connaître le Père. Il nous a donné son commandement nouveau, de nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Il nous a enseigné la voie de béatitude de l'Évangile, pauvreté en esprit, douceur, douleur supportée dans la patience, soif de la justice, miséricorde, pureté du cœur, volonté de paix, persécution durée pour la justice. Il a souffert sous Ponce Pilate, agneau de Dieu portant sur lui les péchés du monde. Et il est mort pour nous sur la croix, nous sauvant par son sang rédempteur. Il a été enseveli. Et de son propre pouvoir, il est ressuscité le troisième jour. Nous élevons par sa résurrection à ce partage de la vie divine qu'est la vie de la grâce. Il est monté au ciel et il viendra de nouveau en gloire cette fois, pour juger les vivants et les morts, chacun selon ses mérites. Ceux qui ont répondu à l'amour et à la miséricorde de Dieu allant à la vie éternelle, ceux qui les ont refusés jusqu'au bout allant au feu qui ne s'éteint pas. Et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils. Il nous a parlé par les prophètes. Il nous a été envoyé par le Christ après sa résurrection et son ascension auprès du Père. Il illumine, vivifie, protège et conduit l'Église. Il en purifie les membres s'ils ne se dérobent pas à la grâce. Il en purifie les membres s'ils ne se dérobent pas à sa grâce. Son action qui pénètre au plus intime de l'âme rend l'homme capable de répondre à l'appel de Jésus. Soyez parfait, comme votre Père céleste est parfait. Nous croyons que Marie et la Mère demeuraient toujours vierges du Verbe incarné, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, et qu'en raison de cette élection singulière, elle a été en considération des mérites de son Fils, rachetée d'une manière plus éminente, préservée de toute souillure du péché originel, est comblé du don de la grâce, plus que toutes les autres créatures. Associé par un lien étroit et indissoluble au mystère de l'incarnation et de la rédemption. La très sainte Vierge, l'Immaculée, a été au terme de sa vie terrestre élevé encore et en âme à la gloire céleste et configuré à son Fils ressuscité en anticipation du sort futur de tous les justes. Et nous croyons que la très sainte Mère de Dieu, nouvelle Ève, Mère de l'Église, continue au ciel son rôle maternel à l'égard des membres du Christ, en coopérant à la naissance et au développement de la vie divine dans les âmes des rachetés. Nous croyons qu'en Adam tous ont péché, ce qui signifie que la faute originelle commise par lui a fait tomber la nature humaine commune à tous les hommes dans un état où elle porte les conséquences de cette faute et qui n'est pas celui où elle se trouvait d'abord dans nos premiers parents, constitué dans la sainteté et la justice, et où l'homme ne connaissait ni le mal, ni la mort. C'est la nature humaine ainsi tombée, dépouillée de la grâce qui la revêtait, blessée dans ses propres forces naturelles, et soumise à l'empire de la mort, qui est transmise à tous les hommes. Et c'est en ce sens que chaque homme naît dans le péché. Nous professons donc, avec le Concile de Trente, que le péché originel est transmis avec la nature humaine, non par imitation, mais par propagation, et qu'il est ainsi propre à chacun. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice de la croix, nous a rachetés du péché originel et de tous les péchés personnels commis par chacun de nous, en sorte que, selon la parole de l'apôtre, là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Nous croyons à un seul baptême, institué par notre Seigneur Jésus-Christ, pour la rémission des péchés. Le baptême doit être administré même aux petits-enfants qui n'ont pas pu encore se rendre coupable d'aucun péché personnel, afin que, nés privés de la grâce surnaturelle, ils renaissent de l'eau et de l'Esprit Saint à la vie divine dans le Christ Jésus. Nous croyons à l'Église une, sainte, catholique et apostolique, édifié par Jésus-Christ sur cette pierre qui est pierre. Elle est le corps mystique du Christ, à la fois société visible, constituée par des organes hiérarchiques, et communauté spirituelle. Elle est l'Église terrestre, le peuple de Dieu pérégrinant ici-bas, et l'Église comblée des biens célestes. Elle est le germe et les prémices du royaume de Dieu, par lequel se continue au long de l'histoire humaine l'œuvre et les douleurs de la rédemption, et qui aspire à son accomplissement parfait au-delà du temps dans la gloire. Au cours du temps, le Seigneur Jésus forme son Église par les sacrements qui émanent de sa plénitude. C'est par eux qu'elle rend ses membres participants au mystère de la mort et de la résurrection du Christ dans la grâce du Saint-Esprit qui lui donne vie et action. Elle est donc sainte, tout en comprenant son sein des pécheurs, parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. C'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient. C'est en se soustrayant à sa vie qu'il tombe dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C'est pourquoi elle souffre et fait pénitence pour ses fautes, dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don du Saint-Esprit. Héritière des divines promesses et fille d'Abraham selon l'Esprit, par cet Israël dont elle garde avec amour les Écritures et dont elle vénère les patriarches et les prophètes, fondée sur les apôtres, et transmettant de siècle en siècle leurs paroles toujours vivantes et leur pouvoir de pasteur dans le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui. Perpétuellement assistée par le Saint-Esprit, elle a pour mission de garder, d'enseigner, d'expliquer et de répandre la vérité que Dieu a révélée d'une manière encore voilée par les prophètes et pleinement par le Seigneur Jésus. Nous croyons tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, et que l'Église propose à croire comme divinement révélée, soit par un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire et universel. Nous croyons à l'infaillibilité dont jouit le successeur de Pierre quand il enseigne ex cathedra comme pasteur et docteur de tous les fidèles, et dont est assuré aussi le collège des évêques lorsqu'il exerce avec lui le magistère suprême. Nous croyons que l'Église, fondée par Jésus-Christ et pour laquelle il a prié, est indéfectiblement une dans la foi, le culte et le lien de la communion hiérarchique. Au sein de cette Église, la riche variété des rites liturgiques et la légitime diversité des patrimoines théologiques et spirituels et des disciplines particulières, loin de nuire à son unité, la manifeste davantage, reconnaissant aussi l'existence, en dehors de l'organisme de l'Église du Christ, de nombreux éléments de vérité et de sanctification qui lui appartiennent en propre et tendent à l'unité catholique, et croyant à l'action du Saint-Esprit qui suscite au cœur des disciples du Christ l'amour de cette unité, nous avons l'espérance que les chrétiens qui ne sont pas encore dans la pleine communion avec l'unique Église se réuniront un jour en un seul troupeau avec un seul pasteur. Nous croyons que l'Église est nécessaire au salut, car le Christ qui est seul médiateur et voie de salut se rend présent pour nous dans son corps qui est l'Église. Mais le dessein divin du salut embrasse tous les hommes, et ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile du Christ et son Église, mais cherchent Dieu sincèrement, et sous l'influence de sa grâce, s'efforce d'accomplir sa volonté reconnue par les injonctions de leur conscience, ceux-là aussi, en un nombre que Dieu seul connaît, peuvent obtenir le salut. Nous croyons que la messe célébrée par le prêtre, représentant la personne du Christ en vertu du pouvoir reçu par le sacrement de l'ordre, et offerte par lui au nom du Christ et des membres de son corps mystique, est le sacrifice du calvaire rendu sacramentellement présent sur nos autels. Nous croyons que, comme le pain et le vin consacrés par le Seigneur à la Sainte Seine ont été changés en son corps et son sang qui allaient être offerts pour nous sur la croix. De même, le pain et le vin consacrés par le prêtre sont changés au corps et au sang du Christ glorieux siégeant au ciel, et nous croyons que la mystérieuse présence du Seigneur, sous ce qui continue d'apparaître à nos sens, de la même façon qu'auparavant, est une présence vraie, réelle et substantielle. Le Christ ne peut être ainsi présent en ce sacrement autrement que par le changement en son corps de la réalité elle-même du pain et par le changement en son sang de la réalité elle-même du vin, seul demeurant inchangé les propriétés du pain et du vin que nos sens perçoivent. Ce changement mystérieux, l'Église l'appelle d'une manière très appropriée transsubstantiation. Toute explication théologique cherchant quelque intelligence de ce mystère doit, pour être en accord avec la foi catholique, maintenir que, dans la réalité elle-même, indépendante de notre esprit, le pain et le vin ont cessé d'exister après la consécration, en sorte que c'est le corps et le sang adorable du Seigneur Jésus qui dès lors sont réellement devant nous sous les espèces sacramentelles du pain et du vin, exactement comme le Seigneur l'a voulu, pour se donner à nous en nourriture et nous associer à l'unité de son corps mystique. L'unique et indivisible existence du Seigneur glorieux au ciel n'est pas multipliée. Elle est rendue présente par le sacrement dans les multiples lieux de la terre où la messe est célébrée, et elle demeure présente après le sacrifice, dans le Saint Sacrement, qui est au tabernacle, le cœur vivant de chacune de nos églises. Et c'est pour nous un devoir très doux d'honorer et d'adorer dans la Sainte Hostie que nos yeux voient, le Verbe incarné qu'ils ne peuvent pas voir, et qui, sans quitter le ciel, s'est rendu présent devant nous. Nous confessons que le royaume de Dieu, commencé ici-bas en l'Église du Christ, n'est pas de ce monde, dont la figure passe, que sa croissance propre ne peut se confondre avec le progrès de la civilisation, de la science ou de la technique humaine, mais qu'elle consiste à connaître toujours plus profondément les insondables richesses du Christ, à espérer toujours plus fortement les biens éternels, à répondre toujours plus ardemment à l'amour de Dieu, à dispenser toujours plus largement la grâce et la sainteté parmi les hommes. Mais c'est ce même amour qui porte l'Église à se soucier constamment du véritable bien temporel des hommes, ne cessant de rappeler à ses enfants qu'ils n'ont pas ici-bas de demeure permanente. Elle les presse aussi de contribuer chacun selon sa vocation et ses moyens au bien de leur cité terrestre, de promouvoir la justice, la paix et la fraternité entre les hommes, de prodiguer leur aide à leurs frères, surtout aux plus pauvres et aux plus malheureux. L'intense sollicitude de l'Église épouse du Christ pour les nécessités des hommes, leur joie et leurs espoirs, leurs peines et leurs efforts, n'est donc rien d'autre que son grand désir de leur être présente pour les illuminer de la lumière du Christ et les rassembler tous en lui, leur unique sauveur. Elle ne peut jamais signifier que l'Église se conforme elle-même aux choses de ce monde, ni que diminue l'ardeur de l'attente de son Seigneur et du royaume éternel. Nous croyons à la vie éternelle. Nous croyons que les âmes de tous ceux qui meurent dans la grâce du Christ, soit qu'elles aient encore à être purifiées au purgatoire, soit que, dès l'instant où elles quittent leur corps, Jésus les prenne au paradis, comme il a fait pour le bon larron, sont le peuple de Dieu dans l'au-delà de la mort, laquelle sera définitivement vaincue le jour de la résurrection, où ces âmes seront réunies à leur corps. Nous croyons que la multitude des âmes qui sont rassemblées autour de Jésus et de Marie au paradis forme l'Église du ciel, où dans l'éternelle béatitude, elle voit Dieu tel qu'il est, et où elles sont aussi, à des degrés divers, associées avec les saints anges au gouvernement divin exercé par le Christ en gloire, en intercédant pour nous et en aidant notre faiblesse par leur sollicitude fraternelle. Nous croyons à la communion de tous les fidèles du Christ, de ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent leur purification, des bienheureux du ciel, tous ensemble formant une seule Église. Et nous croyons que dans cette communion, l'amour miséricordieux de Dieu et de ses saints est toujours à l'écoute de nos prières, comme Jésus nous l'a dit. Demandez et vous recevrez. Aussi est-ce avec foi et dans l'espérance que nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Béni soit le Dieu trois fois saint. Amen. Pratiquement chacune de ces phrases était remise en question. C'est pour ça qu'il a fait le canon. Remise en question pendant le concile. Par les membres vivants de la prostituante, méchamisante, psychotique méchamisante, et de 60 heures. De 72 à 78, quelque chose comme ça, pendant 5 ans, 5 dernières années. Il a subi le martyr à Vatican. Un martyr non sanglant, mais quotidien, tous les jours. Serré. Et ce qu'ils ont fait à son successeur, en une fois, ils lui ont fait à lui, tous les jours, pendant 5 ans. Ils ont assassiné. Ils ont... Parce que le pape était au milieu de ces tortionnaires. Et on peut même pas décrire. Et moi, je me rappelle, j'étais sur les Champs-Élysées. Et je l'ai entendu. Il m'a dit quelque chose du genre, pourquoi m'as-tu abandonné? Il t'a abandonné de tous. chaque. On doit tous porter le pape, quoi, en priant. On ne doit pas l'abandonner. Je me rappelle, une petite larme qui sortit. Je dis, ben oui. Et je me suis senti, je me rappelle et tout, je me suis senti coupable de sa mort. Je suis parti à Montmorin. J'ai quitté Paris, je suis allé à Montmorin. C'est grandiose. Que ce soit lui, Jeanne d'Arc. Demain, Jeanne d'Arc. Et la Pentecôte qui nous ouvre les portes au troisième anniversaire de Marie, Mère de l'Église. C'est grandiose. C'est le 738e jour aujourd'hui. De Marie, Mère de l'Église. Ça, rien que ça. Hein. Si c'est vrai ce que vous dites. 738e jour, d'après vos derniers calculs, c'est aujourd'hui. Saint Paul VI, c'est lui. La France, le nouvel Israël de Dieu. Hein, avec lui, il y a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, hein, Jeanne d'Arc, France Marie, Mère de l'Église, Marie dans l'Assomption, Mère de l'Église. C'est vraiment ça, quoi, c'est grandiose. C'est grandiose, c'est grandiose. On va avoir une Pentecôte. Voilà, elle a été béatifiée en 2014, canonisée en 2018. Voilà. Ah, le pape François a proclamé Marie-Mère de l'Église eucharistique et il l'a canonisée. C'est grandiose.